l'emprise mentale ou psychique, la soumission à un manipulateur ou à un gourou. Pendant longtemps, cela a suscité chez moi incompréhension et incrédulité. Comment peut-on devenir la chose d'autrui, ne plus avoir la force de réagir, de résister à la manipulation ? La plupart du temps, les victimes de manipulation mentale ne se rendent absolument compte de rien. Comme si elles acceptaient leur sort. Jusqu'au jour où le déclic se produit. Toujours tard, souvent trop tard, car le mal est déjà fait. Comment les manipulateurs agissent-ils ? En quoi consiste leur force ? Et comment les victimes réussissent-elles parfois à s'en sortir ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire d'Anne. La vie de cette jeune femme a basculé le jour où elle a décidé d'aller voir une psychanalyste. Elle ne se doute pas que la thérapeute va tout faire pour la placer sous son emprise. Je suis Olivier Delacroix, bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». En 1990, Anne, d'origine suédoise, vient de se marier avec un Français et s'installe avec lui à Rambouillet, près de Paris. Sans travail, sans amis et enceinte de son deuxième enfant, Anne est un peu désorientée par cette nouvelle vie et recherche alors une écoute, un soutien. Elle va tomber sur Maud Pison, une psychanalyste au parcours classique, ayant travaillé à l'hôpital, a priori insoupçonnable.
J'étais arrivée en France il n'y avait pas longtemps. Bon, j'avais mon mari, mais c'est vrai que la famille n'était pas là. Je ne m'étais pas encore fait beaucoup d'amis. Et je rencontre cette femme, donc, qui est catholique, qui a sa croix, qui a son petit chien.
Qui a un certain âge, hein, déjà,
qui
en
a,
plus.
Qui devait avoir, je ne sais pas, 70 ans à peu près. D'accord. À l'époque. Qui me parle gentiment, avec un petit sourire coquet, en me disant, mais bien sûr, je pourrais très très bien vous aider, vous êtes tombé sur la bonne personne. Alors je me suis dit, alléluia, c'est formidable.
Génial, ouais.
J'ai enfin quelqu'un qui m'écoute et qui comprend le problème et tout ça. Et assez rapidement, elle m'a dit, mais écoutez, moi je suis en train aussi de former des thérapeutes, et si ça vous intéresse, vous pourrez peut-être aussi aider d'autres gens. Donc tout d'un coup, il y avait...
C'est génial, voilà. pour voilà. Quelqu'un qui arrive en France. Ouais.
Voilà,
ouais.
Exactement. Bon, et j'aurais éventuellement un travail au bout de compte. Donc c'était quand même pas si mal. Donc,
comment elles se passaient ces séances alors, à Rambouillet ? Elle vous faisait faire quoi ?
Alors, on faisait toujours des dessins, on parlait des rêves. Et elle trouvait toujours des symboliques, soit dans les rêves, soit dans les dessins, où il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Que vous dit-elle ?
Que j'avais un inconscient chargé de névrose, de psychose, de problèmes qui venaient de mon enfance, qui venaient de la manière dont j'ai été éduquée, dont j'ai déménagé, tout ça. Et c'est vrai que moi, l'inconscient, je ne savais pas trop ce que c'était. Hein. Mm-hmm.
On parle de faux souvenirs induits, oui. qui sont en fait l'évocation de faits qui se sont passés, mais dont le patient ne se souvient pas.
Voilà.
C'est très lié à l'inconscient, tout ça.
Oui,
est-ce
oui.
que il me semble qu'elle a usé aussi de cette technique pour vous,
absolument,
vous
oui,
faire
oui,
croire
oui.
à des choses.
Oui, oui, justement, c'est comme ça qu'elle a pu couper avec la famille. C'était sa manière aussi de dire qu'elle était la mère parfaite et du coup, moi je ne me souvenais pas en effet d'avoir eu une mauvaise mère. Et oui, mais parce que vous ne vous souvenez pas, quand vous étiez petite, en fait, elle n'était pas du tout, elle ne s'occupait pas du tout de vous, elle n'était pas intéressée par vous. Enfin, moi, je ne sais pas, moi, ce qui se passe quand on a un an, hein, est-ce qu'on s'en souvient, non ?
Ah oui, elle vous parlait vraiment d'une période où vous étiez toute petite.
Oui.
Mais comment elle justifiait de le savoir, elle, ça ?
Ben parce qu'elle le voyait sur toutes mes névroses.
Et sur tous vos dessins.
Et surtout, mes dessins.
D'accord.
Ouais. Et elle se disait experte là-dedans. Et elle disait souvent que ça, ce sont des choses qui ne passent pas par l'intelligence. C'est une manière aussi d'arrêter l'analyse et d'arrêter notre manière de penser. Et petit à petit, elle disait des choses de plus en plus difficiles à entendre et qui me déstabilisaient de plus en plus. Peut-être que ça me déstabilisait encore plus aussi parce que j'étais enceinte.
Ouais. Mais toutes ces choses-là, vous y croyez ? Lorsqu'elle vous en parle.
Ouais, ouais.
D'accord.
Petit à petit, les défenses tombent.
Ouais. C'est comme si, en fait, le cerveau se bloquait.
Oui, exactement. Comme si le cerveau se mettait en veilleuse.
En veilleuse, d'accord.
Voilà. Elle était bien rodée, hein, dans son système. Elle coupait systématiquement avec la mère, d'abord, parce que c'est toujours le lien le plus fort.
Hein? D'accord.
Après, elle coupait avec les amis. Après, elle faisait des problèmes dans la famille. Elle prenait toujours des familles entières qu'elle analysait chacun de son côté pour après mieux diviser.
Elle arrive à attirer votre mari aussi, hein, dans ce schéma.
Elle lui a dit qu'il faudrait que,
qu'il vienne
aussi et que ça serait bien qu'on fasse ça ensemble.
Est-ce que vous réalisez des entretiens tous les deux
avec elle?
Jamais.
Non.
C'est
non.
toujours lui avec elle ou vous avec elle.
Ouais.
Ça ne vous a pas paru bizarre, ça?
Non.
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 Vous êtes plutôt confiante, donc.
Oui.
Mais naïve. Mais comme on pourrait l'être face à, comme vous dites, le rapport du patient au médecin.
Oui, c'est ça. Je pensais vraiment que j'étais dans la bonne voie. Et puis, de toute manière, je suis devenue ainsi vite, tellement déstabilisée que j'avais besoin d'elle. C'est un peu comme une drogue, en fait. J'étais un peu comme une droguée qui avait besoin de sa drogue. En me mettant en dépression. Et en disant qu'elle était la seule personne qui pouvait m'aider, ça faisait une dépendance.
Oui, elle se substitue à toute personne pouvant vous aider. Elle devient votre épaule, en fait.
Mais même si elle me mettait en dépression, indépendance, elle était en même temps aussi... elle pouvait être très joyeuse, très drôle, et puis elle parlait de l'avenir, de ce monde sympathique qu'on commençait à entrevoir un petit peu, oui. Et elle utilisait tous ces arguments-là.
D'accord.
Moi, c'est ce que je veux créer, un beau monde, un monde positif, un monde...
Parfait.
Parfait.
Et pour cela, nous avons besoin de thérapeutes que je suis en train de former.
Voilà.
Et donc, vous êtes l'une des chanceuses.
Voilà.
Après ces 2 années de thérapie, Anne est donc de plus en plus fragile et complètement dépendante de sa psychanalyste. J'ai eu envie de savoir comment on peut tomber sous une telle emprise. Annie Guibert, présidente du CCMM, Centre contre les manipulations mentales, m'apporte quelques explications.
Anne compare cette emprise à la drogue.
C'est une addiction.
Vous êtes
c'est une addiction.
Totalement d'accord avec ça.
C'est une addiction. Sauf que dans l'addiction à la drogue, le drogué, il est conscient, il reste conscient. C'est comme l'alcoolique, il reste conscient qu'il boit trop. Tandis que quand on est sous emprise mentale, on est incapable de se rendre compte qu'on est sous emprise.
On devient réellement quelqu'un d'autre. Je suppose que vous avez...
Oui, parce que le principe de l'emprise mentale, c'est la séduction. Dans un premier temps, il fallait bien qu'elle soit attirée par cette personne, qui la rassurait, qui l'écoutait, qui était psychanalyste, c'était marqué sur sa plaque. Après, Maud Pison a pratiqué la déconstruction, la dépersonnalisation de Anne, et elle a voulu la reconstruire à sa manière. Mmh. Et c'est ça l'emprise mentale.
Mais elle a fait aussi appel aux faux souvenirs.
Oui, les faux souvenirs induits, c'est très, très, très grave. Le patient, en une séance parfois, est convaincu que ça lui est réellement arrivé.
D'où les dangers.
C'est pour ça, effectivement, quand on commence une thérapie, il vaut mieux s'assurer, au moins que la personne qui assure la thérapie a au moins un diplôme d'État.
J'allais vous demander quel type de prévention les patients peuvent...
Déjà, enfin,
qu'il soit médecin
psychiatre, qu'il soit psychologue clinicien, au moins c'est une garantie importante. Vous savez, il y a 3000 à 4000 médecins qui sont dans des mouvements sectaires.
C'est énorme.
C'est énorme. Quand on dit 3000 à 4000, bon, ils sont toujours, ça ne veut pas dire qu'ils ont été radiés de l'ordre des médecins.
Non, mais y a-t-il des corps de métier particulièrement à risque?
On peut constater des dérives sectaires dans tous les secteurs d'activité humaine. Tout ce qui relève du développement personnel et tout ce qui relève du le mieux-être, à défaut du bien-être, le mieux-être, tout ce qui est dans le secteur de la santé.
Ouais.
Tout le monde peut créer un centre d'information.
De formation, de coaching, par exemple.
De n'importe quoi.
Et c'est justement un centre comme celui-ci, nommé pompeusement Institut de Recherche Psychanalytique, que Maud Pison va donc créer en 1991 dans le sud de la France. Sa vocation ? Former de futurs thérapeutes. Anne et son mari n'hésitent pas à suivre la vieille dame et à s'installer près de chez elle. Là, Maud Pison est accompagnée d'un dentiste illuminé et tous deux créent une micro-société bien hiérarchisée. Anne va découvrir pendant plus de 3 ans un véritable mouvement sectaire qui va bien au-delà d'une simple thérapie de groupe.
Que se passait-il au cours de ces séminaires ?
elle parlait très peu, c'est surtout lui qui parlait de ce nouveau monde, cette nouvelle thérapie qu'ils étaient en train de créer, que ça allait amener un monde où tout le monde vivait en paix. Donc il y avait de l'espoir aussi quelque part dans son message.
Bon, enfin, on est quand même avec deux personnes se faisant appeler Vierge de l'Apocalypse et Réincarnation du Christ.
Ouais, c'est quand même.
Et avec une assemblée de notables, ouais, venant des quatre coins de la France, mais étant tous des.
Oui, parce que les gens ne pensaient
plus. D'un milieu bourgeois, hein, je crois. Hein.
Absolument, mais parce que les gens ne pensaient plus, là. Les gens, ils étaient tous sous emprise. Hein.
Donc, en fait, elle recevait des gens qui avaient le cancer.
Oui, qui venaient de l'Italie, d'Espagne, qui faisaient toute la route pour aller la voir, parce qu'elle était, soi-disant, une guérisseuse, une thérapeute, qui pouvait les sortir de là, qu'elle avait des pouvoirs.
J'ai entendu parler de VIH aussi, donc du sida.
Il y avait des patients auxquels elle disait de ne plus prendre leurs médicaments, et il y a des gens qui sont décédés, hein, comme ça.
Ah oui, carrément, des
oui,
gens qui
ah oui,
qui
non, c'était très très grave. Malades. Il y a eu des cas quand même très très graves.
Le but de cette femme, en fait, au bout du compte, c'était de se faire de l'argent.
Mais c'était qu'une partie, hein.
C'était qu'une partie.
Oui, je pense que depuis le début, évidemment, c'était pas des gens sains, c'était pas des gens normaux, c'est des gens déjà qui n'ont pas d'empathie. Les gens qui sont pervers, qui sont narcissiques, ont besoin des autres pour vivre. Et il y avait des adeptes qui habitaient avec elle. Il y en avait une qui lui faisait la cuisine, il y avait une qui lui faisait les courses, il y en avait une qui était secrétaire, il y avait un autre qui était jardinier. Mmh. Enfin, elle avait tout le monde qui travaillait gratuitement pour elle.
D'accord. Donc là, on se retrouve dans le, voilà, dans la structure d'une secte traditionnelle.
Oui, oui, absolument.
Les gourous, et puis avec plein de gens qui travaillent pour eux gratuitement.
Voilà. Et d'ailleurs, pour elle aussi, on était devenus une drogue. Elle se droguait avec nous, quoi, parce que elle avait besoin de nous, elle avait besoin de gens autour d'elle qui la vénéraient, et elle vivait comme ça.
Vous n'étiez pas tout le temps chez elle.
Elle nous a quand même pas entièrement coupé avec tout, et je pense que c'est ce qui nous a sauvés aussi, hein, parce que c'est à travers d'autres gens qu'on a pu s'en sortir, qu'on a pu avoir le déclic.
Alors ce déclic, il est venu par l'intermédiaire d'un...
D'un psychiatre qui exerçait à Saint-Tropez. Et que, et à ce moment-là, mon mari, il avait déjà, je pense, compris que ça tournait mal. Et il avait rencontré, lui, déjà, ce psychiatre. Il lui avait donné les papiers qu'elle nous faisait lire, la thérapeute, soi-disant donc sa thérapie. Et moi, quand je suis allée le voir, il m'a dit, mais vous comprenez bien que sa thérapie est complètement bidon, ça n'a rien à voir. Il avait tout lu, donc il savait de quoi il parlait. Et moi, j'étais aussi prête à l'entendre. Et voilà, quoi. Après, ça s'est passé très, très vite.
Donc, vous avez quitté la région et vous êtes repartie en Suède.
Oui.
Vous avez mis combien de temps à vous sortir de... cette emprise, en fait, à remener une vie normale.
Je m'en suis sortie tout de suite. Hein, mais
vous en êtes sortie tout de suite.
Ouais, c'est pour ça que je vous dis que l'intelligence est restée en veilleuse. Parce que moi, tout de suite que j'ai eu le déclic, j'ai quand même pu commencer à réfléchir et à penser.
Votre cerveau s'est remis en route, en fait.
Oui, c'est ça. Et ce qui a pris du temps, après, c'est émotionnellement pouvoir dormir, plus culpabiliser, enfin tout ça, quoi. Mm-hmm. Et puis après, je me suis occupée d'autres victimes, donc ça m'a aidée aussi. Puis en même temps, c'est traumatisant parce qu'on est tout le temps là-dedans, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que là, ça fait un moment que je suis plus dedans, donc c'est vrai que ça me rappelle tout ça.
À la suite de tout cela, Anne se met en quête de réveiller les autres membres du groupe. Des procédures sont entamées, le dentiste est rayé de l'ordre des médecins. Mais Maude Pison, elle, décède un an avant son procès. Aujourd'hui, Anne se bat toujours pour lutter contre tous ses prédateurs et a raconté son histoire dans un livre, « Mon voyage avec la Vierge de l'Apocalypse ». Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Clémence Olivier et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.